T'es ma copine.
C'est chez vous.
C'est concertant.
N'importe quand, quand vous voulez, je vais venir.
Ouvert la nuit.
Du lundi au vendredi.
C'est tout.
À partir de 21h. France Inter. La différence.
Il est 15h04. À suivre, là-bas si j'y suis, avec Daniel Mermet.
Alors hier, le 24 octobre, en soirée, en fait, il faut savoir que des individus en cagoule se sont attaqués à la Maison des Roms. Donc elle se situe au 163 rue des Pyrénées, dans le 20e arrondissement à coup de cocktail Molotov. Donc cet hangar qui abritait depuis près d'un an une centaine de Roms a brûlé. Donc aujourd'hui, on nous parle de la dette, de l'Europe, de la Libye, de la Tunisie. Ce qui est vrai peut poser aussi problème, hein, ça je ne dis pas. Mais voilà quoi. Il y a comme un relent tout pourri, donc comme ça pue. À toutes, ciao.
Salut Daniel, profitons de ta présence en Tunisie pour que tu passes ce petit message à mes frères tunisiens, afin qu'ils appellent à raser complètement cet immeuble de ministère de l'Intérieur, immeuble immaculé par le sang des morts et des torturés sous la dictature de Ben Ali et d'autres. Oui, il faut détruire cet immeuble, comme les Français ont fait avec la Bastille et l'a transformé en place de la République. Nous, on peut faire la même chose, une place de rencontre, une place de liberté, où on plantera 14 oliviers, comme le 14 janvier, entourés par 26 arcades blanches, où chaque gouvernorat inscrit pour l'éternité le nom de ses martyrs. Salut Daniel.
Allô, Monsieur Mermet, vous vous réjouissez des élections en Tunisie. Vous allez voir ce qu'ils vont en faire de ce pays qui était le seul en Afrique du Nord qui s'en sortait avec un tourisme, avec un pays ouvert, une économie florissante. Et malgré une dictature plus ou moins dure, et avec tous les défauts qu'il y avait, vous allez voir ce que va devenir aujourd'hui la Tunisie. Croyez-moi, ne vous réjouissez pas trop vite, parce que ça va aller, comme ils disent en Tunisie, c'est comme la pisse des chameaux, parce que les chameaux, ils pissent par derrière, vous comprenez? Et ça n'avancera pas, ça sera la catastrophe pour la Tunisie.
Bonjour à tous, j'ai peur pour les femmes de Libye ou les femmes de Tunisie. J'ai écouté des féministes tunisiennes qui étaient aussi assez inquiètes et qui ne faisaient aucune illusion sur le sort des femmes, même dans un islam modéré. On parle de l'islamisme modéré, de la Turquie, soit, mais là-bas, la condition des femmes laisse encore à désirer. Et il y a, hélas, même encore des crimes d'honneur, même s'ils sont interdits. Alors j'ai peur et je suis triste pour toutes ces femmes arabes. Est-ce qu'il faudra une deuxième révolution pour libérer les femmes? À très bientôt, au revoir.
Oui, bonjour. Le spectre de l'islam, ou devrais-je dire l'islamophobie, continue. Quand on voit le titre des journaux, je me pose de sérieuses questions sur la liberté de la presse française. On a l'impression qu'ils ont voté pour Dag Vador en Tunisie. Ça à croire, quoi. On fait sciemment l'amalgame entre la Libye et la Tunisie, sauf qu'on oublie de dire qu'en Tunisie, ce qui s'est passé là-bas est une leçon de liberté, de démocratie citoyenne.
Merci pour tous ces messages qui nous parviennent à Tunis. Tunis, où dans quelques heures, le résultat des premières élections libres de l'histoire de la Tunisie vont être proclamées. Alors on a déjà une idée assez précise des résultats. Une victoire de Narda, le parti islamiste, qui aura un rôle déterminant dans l'Assemblée constituante. Un succès qui inquiète pas mal de monde, les médias, et surtout en France, inquiétude pour la laïcité, pour la place des femmes et sur les vraies intentions des islamistes. Une inquiétude qui, ici, en Tunisie, semble se limiter plus ou moins aux classes moyennes et à la petite bourgeoisie intellectuelle, disons. Mais si vous parlez avec Mokhtar, notre ami Mokhtar qui est chauffeur de taxi, lui, il a entièrement confiance. confiance et fierté, voilà ce qui caractérise les Tunisiens que nous rencontrons. Ils ont réveillé le monde arabe, ils en sont très fiers, ils ont réussi à couper la tête de la pieuvre qui les étouffait, ils sont tout à fait conscients de ce que la pieuvre bouge encore, et même ça et là, ils voient des têtes qui repoussent, mais ils ont confiance et c'est définitif. Et Mokhtar nous explique, c'est comme un arbre, nous avons réussi à arracher un arbre qui avait 23 ans, alors si les islamistes font les malins, d'ici un ou deux ans, arracher un arbre qui aura un ou deux ans, ce sera facile, une piche nette, fierté, confiance, et puis tout de suite, Mokhtar revient à l'essentiel, c'est-à-dire la revendication sociale, le chômage, le déclin économique, les jeunes diplômés qui sont obligés de bosser jour et nuit dans les call centers, ceux qui n'ont pas de boulot et ils sont très nombreux, et ils doivent partir contraints qu'ils sont à l'immigration. La question de la laïcité, évidemment très importante, a fait oublier que c'est de cette revendication qu'est née la révolution. Et c'est le problème majeur aujourd'hui auquel le gouvernement qui va se constituer va être confronté. Les islamistes de Grenada ont donné toutes les garanties, ont rassuré les investisseurs du monde entier et rappelé leur foi dans le néolibéralisme et la politique du FMI, conviction d'ailleurs partagée par la plupart des partis politiques qui sont arrivés dans le peloton de tête. Mais Mokhtar est définitivement confiant. Et puis, il y a la chute de Kadhafi et il va falloir reconstruire la Libye voisine. Et ça va être un immense chantier qui va donner du boulot à des millions de Tunisiens. Mokhtar a, je vous le répète, définitivement confiance. Et puis tous ces problèmes-là, ce sera demain. Aujourd'hui, c'est la fête et les Tunisiens sont heureux d'avoir réussi ce coup de force de ces élections. Aujourd'hui, dans la basse, j'y suis, on va passer une heure avec Jean Ziegler. Ce qui est très pratique avec des gens comme Jean Ziegler, c'est que c'est plus la peine de les présenter. Il publie un bouquin « Destruction massive » où encore une fois, il parle de la fin dans le monde, la fin de la fin, à quand cette fin de la fin? Et ça nous donnera, au passage, l'occasion d'évoquer la Libye de Kadhafi, qui, dans les années 70, était un phare pour un certain nombre d'intellectuels engagés tels que Jean Ziegler. Voilà notre sujet du jour, destruction massive. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Eh ben, dis donc, Daniel, ce matin, qui c'est qu'on avait dans le 7-9 ? Gérard Siloche, les temps changent, Daniel. J'espère que tu regardes ça de près. On avait Frédéric Lordon invité dans le journal de France 3 il y a quelques semaines. Gérard Siloche, dans le 7-9. Bref, je suis en train de me demander si, en fin de compte, tu n'avais pas eu raison depuis 20 ans. On est un certain nombre, j'en fais partie, je me mets dans leur catégorie parce que ça fait 20 ans que je vois que font les ravages de la mondialisation. Et on criait dans le vide, mais maintenant, on ne crie plus tellement dans le vide. Et voilà, pour essayer de conclure ça en beauté, je pense qu'il faudrait dégager les gens qui nous ont foutus dans cette merde et qui sont en train d'essayer de nous en sortir. Est-ce que vous feriez appel à votre chauffard qui vient de vous écraser pour vous soigner? Non. Alors, dégageons ces crétins qui nous ont mis dans cette merde. On va leur demander des comptes et puis on va essayer de s'en sortir avec des gens intelligents qui ont des idées. On tient le bon bout, peut-être. Salut et bonne émission.
Amis des betteraves du Gâtinais, le repère de là-bas si j'y suis de Toussaint en Seine-et-Marne, se réunira ce soir, mardi, à partir de 20h, sur le thème de l'alimentation. Manger sain et local, durable et équitable, comment faire mieux? C'est la première rencontre de la biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, au cœur du pays des betteraves, ce soir, mardi, au café La Tête des Trains de Toussaint, village entre Milly-la-Forêt et Malesherbes. Bienvenue à tous les AMG. Salut!
Dans la Sierra de Chocotan, au Guatemala, par an, à peu près 90 000 enfants meurent de faim, selon les statistiques officielles au Guatemala. Et au moment même où je distribue mes cartes visite de l'ONU qui pressent sur leur cœur comme des talismans, je sais que je les trahis. Si vous avez une voiture avec un réservoir de 50 litres, vous le remplissez avec du bioéthanol. Vous devez, pour ces 50 litres, brûler 350 kg de maïs. Or, avec 352 kg de maïs, au Mexique et en Zambie, un enfant vit un an. Les grandes hedge funds, les banques, font maintenant des profits astronomiques et ceux qui payent par la sous-alimentation, la maladie, la destruction des familles et la mort, finalement, ce sont les extrêmement pauvres, les spéculateurs tuent.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, j'y suis avec Jean Ziegler. Destruction massive.
Flight number 2, arriving from New York.
Toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim. Près d'un milliard d'êtres humains sont gravement sous-alimentés. La courbe des victimes dépasse celle de la croissance démographique. Selon la FAO, l'agriculture mondiale pourrait nourrir sans problème 12 milliards d'êtres humains. Or, nous sommes 6,7 milliards sur la planète. Un enfant qui meurt de faim est donc un enfant assassiné. Quand on lit des lignes comme celle-là, les auditeurs savent que Jean Ziegler n'est pas loin. Parce que c'est vraiment la répétition sans cesse de ces phrases, de ce constat que vous faites depuis déjà pas mal d'années, Jean Ziegler, et c'est pour ça qu'on est très heureux de vous recevoir à l'occasion de la sortie d'un nouveau bouquin aux éditions du Seuil, « Destruction massive, géopolitique de la faim ». Et après 8 années passées comme rapporteur spécial des Nations Unies sur les problèmes d'alimentation, c'est ça ?
Sur le droit à l'alimentation, oui.
Sur le droit à l'alimentation, oui. Maintenant vous êtes vice-président du Conseil consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Vous pouvez faire le bilan de ces 8 années de travail, régler quelques comptes, et vous allez nous en parler, et faire l'état de cette faim dans le monde, en espérant évidemment qu'un jour ce sera la fin de la faim, pour faire un jeu de mots qu'on doit vous resservir régulièrement. Alors on va parler de ce bouquin, et puis on parlera de vous, on parlera de votre parcours, un petit peu de vos engagements, et puis on parlera d'une question dont on me voudrait de ne pas parler avec vous, c'est la question de Kadhafi, vos liens ou non avec Kadhafi. Mais ça, on mettra ça à la fin, oui, si oui. Vous voulez bien, on va commencer par ce bouquin. Alors, où en sommes-nous avec la faim dans le monde, avec cette situation ?
Vous avez tout à fait raison. La faim, la destruction de millions de personnes sur une planète qui déborde de richesses par la sous-alimentation et la faim, ce massacre quotidien qui se déroule dans une normalité glacée au vu au-dessus de tous, est le scandale, le principal inadmissible scandale de notre temps. Vous avez donné des chiffres, on peut donner un autre. Enfin, c'est des chiffres de la FAO que personne ne conteste, où les 5 secondes d'un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim. Maintenant où nous parlons, si nous restons ensemble une heure, c'est 227 enfants qui seront morts de faim. Vous savez que l'humanité perd 1% de sa population tous les ans. C'est-à-dire que tous les causes de mortalité ensemble tuent à peu près 70 millions de personnes par an. De ces 70 millions de personnes qui meurent par an sur cette planète, 35 millions sont dus à la faim. C'est-à-dire la faim, la sous-alimentation et tous les suites immédiates comme le NOMA, le Kwashiorkor, etc., tuent, et la cause de mortalité de très loin, la plus importante du monde. Or, la faim est faite de main d'homme. Et c'est des mécanismes meurtriers, un ordre cannibal du monde dont on peut parler avec plus de détails, qui tue. Il a eu, dans les siècles passés, une fatalité de Bretagne, de Beauce. D'ailleurs, des gens ont émigré au-delà des mers pour trouver une subsistance. Ce n'est au début de ce siècle ou au début de ce millénaire, il n'y a plus sur cette planète un manque objectif. Marx est mort en 83, vous savez, en février 83, jusqu'au dernier moment de sa vie, il était persuadé que le couple maudit du maître et de l'esclave allait accompagner l'humanité pendant des siècles encore. Autrement dit, qu'il y aura un décalage objectif entre les biens disponibles et les besoins irrépressibles des hommes. Il s'est trompé là-dessus. Aujourd'hui, le manque objectif a disparu. Un enfant qui meurt de faim est assassiné. C'est l'ordre cannibale du monde, sa violence qui tue. Alors, comme ce livre, malgré le titre « Destruction massive, géopolitique de la faim », c'est un livre d'espoir, d'espérance. Parce que d'une part, comme le massacre est dû à des mécanismes mis en place par les hommes, essentiellement par les sociétés multinationales de l'agroalimentaire, ils peuvent être brisés par les hommes, par la mobilisation démocratique dans nos pays dominateurs. On peut exiger les réformes structurelles fondamentales que je peux préciser tout à l'heure pour renverser totalement ces stratégies de mise à mort, de massacre, d'exploitation à outrance. Et dans le Sud, nous vivons maintenant ignorés totalement en Europe, une série extraordinaire d'insurrections paysannes, de ces Lengue en Mongolie, aux Philippines, en Indonésie, au nord du Brésil, au nord du Sénégal, contre Bolloré, contre la fruitière de Marseille, contre ces grandes sociétés multinationales d'origine française, si je prends l'exemple du Sénégal du Nord, qui accaparent les terres arables, moyen de la corruption, etc., d'acaroise, qui chassent les paysans et qui les réduisent à la famine. Or, les paysans se lèvent. Il y a donc destruction massive, c'est un titre des éditeurs au Seuil, Olivier Retourné, qui est mon ami, qui est le président du Seuil, a longtemps hésité. Pendant tout l'été, on a dit, écoute, ça va choquer, les gens vont ne pas acheter le livre, etc., etc., ce qui est l'antiste de l'auteur aussi. Finalement, on a maintenu destruction massive, géopolitique de la faim, mais malgré ce titre, c'est un livre d'espérance.
L'estomac dans les talons, ils traînent les pattes comme des cons. Ils peuvent pas danser la valse, ils sont pas assez vivaces. Heureusement qu'il y a Tango, la danse qui fatigue pas trop. Tango, 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 la danse qui fatigue pas trop. Bonne nuit les petits affamés, le marchand de sable est passé. Demain au petit déjeuner, vous en aurez une poignée. Heureusement qu'il y a le tango, la danse qui fatigue pas trop. Tango, 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 tape-moi dans le dos que je fasse mon rôle. Dans cette ambiance squelettique, c'est nécessaire la musique pour que les tubes digestifs oublient le goût du rosemary. Heureusement qu'il y a le tango, la danse qui fatigue pas trop. Tango, 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 serre-moi pas trop, je sens tes os.
Jean Ziegler, vous avez passé, on le disait tout à l'heure, 8 années comme rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation de 2000 à 2008. Dites-nous un peu le bilan de ces 8 années et puis la faim dans le monde. Vous observez ça depuis longtemps, vous êtes impliqué dans ce combat depuis très longtemps. Quelles sont les tendances? Est-ce que les choses s'améliorent? Est-ce qu'on va vers un mieux, un pire?
Dans le livre, vous avez raison, est fait de beaucoup de récits, d'analyse évidemment, de statistiques, etc., mais aussi beaucoup de récits. Et si vous m'interrogez sur la motivation profonde, il y en a deux. D'une part, décharger un peu ma mauvaise conscience, dire où j'ai trahi les gens qui m'ont fait confiance et j'ai échoué de les défendre devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Je donnais un exemple tout à l'heure. Et aussi dire des salauds effroyables que j'ai rencontrés dans les palais présidentiels, hein, que je n'ai pas pu dénoncer jusqu'à maintenant, puisque quand vous êtes en fonction, vous devez les revoir, vous devez négocier, etc. Donc, je règle mes comptes et en même temps, je parle et je m'excuse auprès des victimes. Je prends un exemple. Dans la Sierra de Chocotán, au Guatemala, 10 millions d'habitants, magnifique pays entre deux mers, le Pacifique et les Caraïbes. Par an, à peu près 90 000 enfants en dessous de 10 ans meurent de faim, selon les statistiques officielles au Guatemala. Guatemala, 1,8% de la population a plus de 60% des terres arables. Ce sont d'une part les multinationales del Monte, si vous êtes sur la Sierra à 2000 mètres, où les Mayas, la population Maya a été refoulée sur des pentes arides où il y a un peu de maïs, mais rien du tout. Des femmes qui ont l'air de 80 ans alors qu'ils ont 30 ans, des hommes n'ont plus de dents édentées, les gosses ont les bras et les jambes comme des allumettes. Vous arrivez là-bas avec les Toyota blancs des Nations Unies, avec les hommes de sécurité, avec mes collaborateurs, avec les traducteurs, enfin les interprètes mayas, etc. etc. Vous êtes une semaine là-bas, on prend note des expulsions, de tous les meurtres commis par les pistoleros, parce que les latifundiums s'étendent tout le temps, chassent les mayas, enfin il y a une guerre de classe ou de race latente qui continue, bien que la dictature de Rios Montt soit tombée. Et je vois brusquement s'allumer l'espérance, l'espoir dans les yeux. C'était des gens très, très beaux, les Mayas, ce teint cuivré, ces yeux sombres. Et les femmes, les hommes se disent enfin quelqu'un qui s'occupe de nous. Enfin quelqu'un qui nous écoute. Et peut-être quelque chose va changer. Et au moment même où je distribue mes cartes de visite de l'ONU qui pressent sur leur cœur comme des talismans, je sais que je les trahis. Parce que je sais ce qui va se passer à New York devant l'Assemblée générale. Alors, mes recommandations, c'est évidemment réforme agraire. C'est la toute première chose pour vaincre la faim au Guatemala, pays archi-fertile, qui a une population paysanne ancestrale compétente. Bon, qu'est-ce qui se passe? J'arrive à mes recommandations avec immédiatement la réforme agraire est balayée, parce que les sociétés multinationales américaines et autres qui détiennent les terres fertiles dans la zone du Pacifique, dans la grande plaine à terre noire, magnifique, ou qui détiennent les haciendas de café à mi-hauteur de la montagne, évidemment, ont leurs alliés. Au State Department, financent la campagne présidentielle, etc., font une alliance. La réforme agraire, évidemment, est immédiatement balayée. Tout ce que j'ai obtenu pour faire vite, c'est 4 hélicoptères payés par la Banque mondiale qui maintenant font un relevé topographique qui vole sur la terre du Guatemala pour faire un relevé topographique dont on fera un jour un registre foncier, parce que ce pays-là n'a pas de registre foncier depuis les Espagnols. C'est la violence pure qui détermine la limite des grandes propriétés. Et peut-être dans l'an 3005, à partir d'un registre foncier, peut-être il aura une fois une réforme agraire. Donc j'ai trahi ces hommes, ces femmes magnifiques qui nous ont accueillis, mes collègues et moi, enfin toute l'équipe avec laquelle évidemment on se déplace, espérance déçue. Au moins, je dis leur souffrance, ça soulage un peu ma conscience, enfin je parle comme un petit bourgeois calviniste, mais je suis content de dire ce qu'ils vivent. Ils ne vont pas lire ce livre, bien qu'il va avoir une traduction espagnole. Ils ne vont pas le lire, ils n'ont pas accès au livre. Mais peut-être ils vont comprendre que cette trahison me fait souffrir comme elle les fait souffrir. D'abord ça. Ensuite, les salauds que j'ai rencontrés, je le dis dans le livre, 2005, Niger, le deuxième pays le plus pauvre de la planète. Une famine terrible, j'y vais, appelé par des groupuscules d'une très faible société civile. Je suis dans le bureau magnifique sur les rives du fleuve Niger, dans le bureau de Mamadou Tandja, le général Mamadou Tandja, qui était en 2005 président du Niger, et qui dit, monsieur le professeur, il n'y a pas de faim chez nous, vous êtes bienvenu dans notre pays, mais votre visite est sans objet. Alors que les chiffres sont terribles. Tandja est de mèche, évidemment, avec les grands marchands de grains qui stockent le mil, espérant pouvoir le vendre dans une situation de plus grande famine encore, ou l'exporter à Sokoto et à Kano, enfin les grandes villes nigérianes proches. C'est un des rares moments où je me suis adressé directement au secrétaire général, qui était Kofi Annan, à l'époque, disant que j'étais totalement en échec, parce que le programme alimentaire mondial, l'aide humanitaire internationale alimentaire ne peut arriver que s'il y a demande nationale.
Oui.
Comme il refusait, les Nations Unies étaient en échec. Et Kofi Annan, lui-même fils de paysan, Fante, de la grande forêt d'Ashanti, du Ghana central, lui, il a pris, une semaine après, l'avion. S'est déplacé à Saint-Dair et à Maradi, dans les pires régions du sud de la famine. Et quand le secrétaire général se déplace, c'est évidemment la CNN, la BBC Afrique, RFI, etc., qui se déplacent. Et il a eu un moment où Danja ne pouvait plus nier, a dû signer la lettre d'appel et le pont aérien s'est établi. Évidemment, après des milliers de morts, déjà.
Il vient d'arriver à l'hôpital de Madarounfa. Sa mère n'avait plus de lait pour le nourrir.
TF1.
Couché sur des lits tout autour des enfants malades, malnutris.
14 juillet 2010.
Ce médecin ne sait pas s'il pourra tous les sauver. Ismaël a 11 mois, il ne bouge même plus.
Il a l'air comme il est en train de somnoler. Vous avez l'impression que même qu'il est parti. De premier coup d'œil, vous avez l'impression que l'enfant, est-ce qu'il est vivant? Vous êtes obligé peut-être de donner voir.
Les enfants sont les premières victimes de la pénurie alimentaire aiguë qui frappe le Niger depuis 3 mois. Le long de la route, il n'y a que sable et terre craquelée. Dans cette région du sud, la pluie ne vient plus. Les greniers sont vides. Dans les champs, les hommes s'évertuent à faire pousser des graines de mil. C'est l'aliment de base ici.
Regardez cette plante, elle ne grandit pas. Il n'y a pas assez de pluie, le sol est trop sec. La récolte ne sera pas bonne.
Dans ce village, les habitants attendent la distribution de céréales depuis des semaines maintenant. Au Niger, plus de la moitié de la population serait touchée par cette pénurie alimentaire.
C'est ailleurs effrayant, le Niger. Il y a un projet de la Banque mondiale, très connu, qui permettrait par irrigation capillaire du fleuve d'irriguer, de rendre arable pour 3 récoltes de mil par an, 440 000 hectares, qui coûtent quelques centaines de millions. Personne n'a ces quelques centaines de millions, donc les Nigériens, périodiquement frappés de famine, meurent. Alors que le Niger est le deuxième producteur d'uranium du monde. Un pays parmi les plus riches du monde quant à son sous-sol. Derrière le Canada, c'est le Niger, le deuxième pays, qui est entre les mains totalement d'Areva. Totalement d'Areva. Et Areva, évidemment, paye au lance-pierre, par quelques chèques de corruption, l'extraction de l'uranium qui sert à EDF, etc., etc., comme vous le savez. Et ce pays-là, le deuxième producteur d'uranium du monde, n'a pas les 650 millions qu'il faudrait pour mettre en valeur, irriguer 440 000 hectares qui permettraient 3 récoltes par an et qui permettraient, si le projet se réalisait, pouvait être financé, de mettre à l'abri, à jamais, quelle que soit la sécheresse, quel que soit le rythme des criquets, à l'abri les 10 millions de Nigériens.
Alors, Jean Ziegler, dans votre bouquin, je rappelle le titre, « Destruction massive, géopolitique de la faim », une des raisons de la faim aujourd'hui dans le monde, c'est le dumping agricole.
Oui.
C'est-à-dire que les pays de l'OCDE, les pays riches, versent des subventions pour soutenir leurs exportations agricoles à destination des pays que vous évoquez, par exemple l'Afrique, ce qui fait que les Africains ne peuvent absolument pas concurrencer ces produits et sont incapables de se défendre par rapport à ces produits. C'est donc les pays riches qui, en l'occurrence, organisent bel et bien la famine, mais qui, plus tard, déploieront aux frontières des forces militaires pour contenir l'immigration.
Oui.
D'un côté, on a faim, donc il est tout à fait naturel que ces populations tentent d'aller vivre ailleurs, puisqu'elles ne peuvent plus vivre sur leur sol, sur leur terre. Oui. Et là, on fera, c'est des paradoxes terrifiants.
Il y a trois structure fondatrice de cet ordre cannibale. En fait, trois mécanismes particulièrement meurtriers. Le dumping agricole, je vais y répondre tout à l'heure. Il y a le dumping agricole, la spéculation boursière avec les aliments de base, riz, maïs et blé essentiellement, et bien sûr les biocarburants, les agrocarburants qui brûlent des centaines de millions de tonnes de maïs, de blé, essentiellement aux États-Unis. Alors si on prend le premier mécanisme meurtrier que vous venez de résumer, j'ai rien à ajouter. L'année dernière, les pays industrialisés de l'OECDE ont versé 349 milliards de dollars à leurs paysans très, très minoritaires, je vois 4% en France, etc., très, très minoritaires à titre de subsides à la production et à l'exportation. Ce qui fait que sur n'importe quel marché africain aujourd'hui, le plus grand, c'est la Sandaga à Dakar, vous pouvez acheter, ça dépend de la saison, des fruits, légumes, grecs, portugais, français, italiens, allemands, à moitié ou au tiers du prix du produit africain équivalent. Et quelques kilomètres plus loin, mais vraiment quelques kilomètres plus loin, vous avez le paysan Wolof ou tout couleur avec sa femme, ses enfants, 10 heures sous ce soleil brûlant, qui s'épuise au travail et qui n'ont pas la moindre chance d'arriver à un minimum vital. Hors des 54 pays qui couvrent le continent africain, 37 sont des pays purement agricoles.
Ça, c'est le résultat. Ce n'est pas le résultat d'une fatalité ni d'une incompétence locale quelconque. C'est le résultat de politiques imposées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.
Mais totalement. Deuxième chose, la spéculation. 2007-2008, crise financière, le banditisme bancaire qui a détruit 85 000 milliards de dollars de biens patrimoniaux. Les grandes hedge funds, les banques, les grandes banques ont migré à partir de là des marchés financiers vers les marchés des biens, des matières premières agricoles et font maintenant des profits astronomiques avec les exchange certificates on rice, avec les certificats sur le riz, avec des dérivés. Goldman Sachs a construit des dérivés très, très compliqués entre maïs, soja, café, etc., etc. Résultat, dans les derniers 18 mois, je prends uniquement les derniers 18 mois, et dans mon livre, il y a des analyses évidemment beaucoup plus détaillées, le riz a augmenté de 110%, le maïs de 93%. Or, selon la Banque mondiale, des 6,7 milliards que nous sommes sur Terre, 1,7 milliard sont les extrêmement pauvres, c'est-à-dire les gens, 1,7 milliard dans les bidonvilles de Karachi, dans les slums de Karachi, dans les Smoky Mountains de Mani, dans les favelas de Sao Paulo, etc., etc. Et ceux-là, quand les prix explosent, comme c'est le cas maintenant, doivent acheter leur nourriture avec un revenu très, très réduit. Et à cause de la spéculation, les hedge funds spéculent au Chicago Commodity Stock Exchange, donc à la bourse de Chicago, qui est la plus ancienne bourse des matières premières agricoles. C'est pour ça que je prends comme exemple. Le font d'une façon tout à fait légale. La conséquence, c'est d'abord les gains astronomiques des spéculateurs, bien sûr. Explosion des prix des matières premières agricoles de base. Et ceux qui payent par la sous-alimentation, la maladie, la destruction des familles et la mort, finalement, ce sont les extrêmement pauvres dans les bidonvilles du monde qui doivent acheter avec un revenu très réduit déjà ces aliments de base dont les prix ont explosé. Alors que les mécanismes meurtriers peuvent être brisés par la mobilisation démocratique. Toutes les armes sont là, les armes constitutionnelles, les droits de l'homme, les libertés publiques, la grève, etc., etc. On peut demain matin demander au Parlement de changer la loi boursière et interdire, ce que demandent les Nations Unies d'ailleurs, interdire la spéculation sur les aliments de base. Parce que les bourses de Paris, de New York, de Francfort, de Zurich, de Londres, ce n'est pas la jungle, c'est une loi nationale chaque fois qui gouverne ces bourses avec des règles assez strictes. On peut interdire, on peut faire interdire, pression sur le gouvernement, la spéculation alimentaire et sauver de la mort certaine, probablement des dizaines et probablement des centaines de millions de personnes. Alors, même chose pour le dumping agricole. Demain matin, nous pouvons demander, forcer le ministre de l'Agriculture de France, qu'à la prochaine réunion des ministres de l'Agriculture à Bruxelles, ils demandent l'arrêt immédiat du dumping. Nous pouvons le faire, il n'y a pas d'impuissance en démocratie.
En banlieue, mais aussi au cœur de la capitale du Mozambique, on dresse des barricades, on fait brûler des pneus, on pille les magasins.
France 24, 6 septembre 2010.
Les manifestants ont faim et ils sont en colère. Ils viennent d'apprendre que la semaine prochaine, le prix du pain augmentera de 25%.
Au palais de la présidence, ils mangent bien. Alors pourquoi le peuple meurt de faim? Ils augmentent le prix du pain, du riz et de l'essence. Tout est cher.
Le Mozambique compte 20 millions d'habitants. 65% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. La politique commerciale, plutôt libérale, a aggravé la situation. Quasiment tous les produits de consommation sont importés de l'étranger et payés en dollars. Problème, le billet vert a augmenté alors que la valeur de la monnaie locale a chuté. Résultat, une inflation galopante. Avec un mois de salaire, en moyenne 50 euros, certains n'ont même pas de quoi s'acheter un sac de 25 kilos de riz.
Alors Jean Ziegler, il faut aussi qu'on parle des agrocarburants. Vous en parlez dans votre bouquin.
Alors, les agrocarburants, l'année dernière, c'est vrai qu'il y a un problème climatique, détérioration du climat. C'est vrai qu'elle est due au CO2, cette détérioration. Il est vrai que l'abondance de l'énergie fossile, notamment du pétrole, produit du CO2, donc il faudrait limiter. Le plus grand producteur du biocarburant, bioéthanol et biodiesel, c'est les États-Unis. Qui finance à des coûts de milliards de subsides publics la fabrication de bioéthanol. L'année dernière, c'est Bush qui a initié le programme, c'est Obama qui l'a repris et étendu. 138 millions de tonnes de maïs, plus du tiers de la récolte de maïs des États-Unis, ont été brûlées pour faire des agrocarburants. Et des millions de tonnes de blé. Alors, je vais défendre Obama juste une minute, à contre-cœur d'ailleurs. Si on est président, son argumentation n'est pas totalement idiot. Les Américains sont la nation industrielle numéro une du monde, malgré qu'ils ne sont que 300 millions. Mais 25% de tous les biens industriels du monde produits en une année sont américains. La matière première pour cette formidable machine industrielle, c'est le pétrole. Or, ils utilisent 20 millions de barils par jour pour faire tourner leur machine industrielle. Or, seulement 8 millions sont produits entre l'Alaska et le golfe du Mexique. Et plus de 60%, 12 millions, sont importés. Et encore importés de régions extraordinairement dangereuses du monde. Delta du Niger, où il y a une guerre civile dont personne ne parle, mais qui est très, très violente. Moyen-Orient, où ils doivent payer le gendarme israélien à coups de milliards. Israël est un État mercenaire pur et simple. Des Américains. Bref, ils doivent maintenir dans le monde une force militaire, des dépenses militaires tout à fait extraordinaires. Pour assurer la sécurité des sources d'approvisionnement énergétique, Bush avait dit que l'Amérique doit être capable de mener 4 guerres à la fois. Et donc, le budget du Pentagone est astronomique. Et donc, si Obama veut mettre en œuvre un minimum de programmes sociaux, il doit réduire le budget du Pentagone. Ça, il ne peut le faire que s'il substitue, autant que faire se peut, au pétrole, l'énergie végétale, les agrocarburants. Sauf que sur une terre, sur une planète où tous les 5 secondes d'un enfant sous de 10 ans meurt de faim, brûler des plantes nourricières pour en faire du carburant est un crime inadmissible. Je prends juste un dernier exemple. Je reviens de d'Oslo, où, parce qu'ils sont très, très conscients du climat, c'est des luthériens, c'est des gens très moraux, etc., etc., où 30% des voitures en Norvège en circulation marchent aux agrocarburants, déjà maintenant. Or, si vous avez une voiture avec un réservoir de 50 litres, vous le remplissez avec du bioéthanol, vous devez, pour ces 50 litres, brûler 350 kilos de maïs. Or, avec 352 kilos de maïs au Mexique et en Zambie, où le maïs est aliment de base, un enfant vit un an, une année.
Terrifiant.
On peut, oui, mais de nouveau, on n'est pas impuissant. On peut interdire l'importation du biocarburant ou le frapper d'une taxe douanière totalement décourageante qui empêche pratiquement l'importation du bioéthanol. Et ça, le Parlement peut le faire demain matin. Si l'opinion publique démocratique, républicaine, se lève, l'exige, les députés le font.
Au cours de ces années, Jean Ziegler, vous avez rencontré, vous parlez du président du Niger que vous rencontrez, mais ce n'est pas la seule autorité, personnalité politique, évidemment, que vous avez rencontré. Vous avez rencontré des chefs d'État, des chefs d'entreprise, des ambassadeurs, vous n'avez pas manqué, je vous connais, de tenir les propos que vous nous tenez sur ce ton-là. Oui. Quelle réponse ? Est-ce que ces gens-là ignore ce que vous dites, je ne le crois pas.
Non.
Quelle est leur réponse? Quelle est leur marge de manœuvre? Quels sont leurs mensonges? Et quelles sont parfois leurs actions?
D'abord, il y a une schizophrénie aux Nations Unies. Hein, il y a le Conseil des droits de l'homme, qui sont 47 États, dont la tâche est, c'est la troisième instance la plus importante des Nations Unies, dont la tâche est d'examiner les politiques nationales des 194 États membres quant à la conformité avec les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que pour entrer aux Nations Unies, chaque État doit signer la charte et la Déclaration universelle. Alors, le droit à l'alimentation est dans la Déclaration universelle, article 25. La schizophrénie consiste en ceci, que les États-Unis d'Amérique, l'Australie, un grand nombre de pays occidentaux, très fortement influencés évidemment par l'obscurantisme néolibéral, pour aller très très vite, disent qu'il ne peut pas y avoir un droit à l'alimentation, un droit à l'eau, un droit à l'école. Ça ne peut pas possible parce que ça signifierait que les États devraient intervenir et les organisations interétatiques devraient intervenir dans le libre jeu du marché. Et ceci est le péché capital. Alors, quand je suis face à l'ambassadeur américain, j'en ai connu plusieurs. Il y avait un qui était un truand effroyable, un nabab de la pharmacie, produit pharmaceutique l'Arizona, dont je ne dirai pas le nom, qui était nommé par Bush. Mais il y avait d'autres qui étaient remarquables. Enfin, George Moose, par exemple, un afro-américain remarquable, qui était l'ambassadeur de Clinton à Genève. Ils étaient tous contre mon mandat, contre le renouvellement du mandat. Deux fois, ils ont demandé ma révocation après le rapport sur la Palestine. Mais ce n'est pas du cynisme. Ils voient l'effroyable massacre de la faim. Ils sont parfaitement informés. Ils sont touchés comme n'importe qui. Hein, quand on voit ce qui se passe maintenant en Afrique orientale, hein, où des enfants par milliers meurent parce que simplement devant les 17 camps, les Nations Unies n'ont plus l'argent nécessaire pour accepter tout le monde. Et des centaines de familles sont repoussées dans la savane où probablement ils périssent. Bon, un ambassadeur américain, c'est ça. Mais la théorie néolibérale est de dire, c'est vrai, c'est horrible, mais seul le marché, quand tous les secteurs publics inefficaces, archaïques, etc., seront privatisés, donc soumis à la loi de la maximalisation du profit, quand la force normative des États aura baissé suffisamment, les forces de production du marché seront totalement libres. Alors là, la faim serait résorbée. Et résorberont...
aussi cinglés que les Soviétiques. Quoi.
C'est... aussi cinglés, l'obscurantisme. Bourdieu a dit, c'est un obscurantisme pire que celui de l'Église catholique au Moyen-Âge.
C'est ça.
Obscurantisme, irrationalité. Et donc, c'est l'aide alimentaire d'urgence qui doit s'occuper de ceux qui sont les victimes du dysfonctionnement du marché. Et c'est vrai que le Programme alimentaire mondial, qui est l'organisation spécialisée des Nations Unies pour l'intervention d'urgence dans les 48 heures, c'est formidable cette organisation, ils ont des flottes aériennes, des flottes de camions, des dépôts sur tous les continents. C'est une organisation magnifique, le Programme alimentaire mondial, qui a perdu la moitié de son budget, c'était 8 milliards de dollars en 2008, il est de 3,2 milliards maintenant. Parce que les pays occidentaux, donateurs, Japon y compris, ne payent plus leurs cotisations parce qu'ils doivent payer, renflouer leurs banques. De nouveau, les spéculateurs tuent.
Soit 70 litres de flotte par jour en moyenne, par au occidentale. La dalle pour les enfants du Darfour. Évidemment, pas d'eau potable. Des lettres, des tables de maths. Un cerveau pour nos chérubins. La dette, pas d'école, pas de cartable. Pour le petit Africain. 70 litres de flotte par jour en moyenne. Par occidental. Des milliards de dollars par jour dans la bourse du grand capital. Un sac de riz par famille. Une fois par semaine des protéines. C'est quand il n'y a pas de famine que l'Afrique mange à ce régime. 70 litres de flotte par jour en moyenne. Par occidental. Un fossé qui se creuse plus chaque jour. Une nouvelle guerre, un nouvel arsenal. Pour que le ricain reste obèse. Que le petit français dorme à l'aise. Il faudra bien qu'on allège de leur bien quelques pays d'Afrique.
Jean Ziegler, vous êtes un vieil tiers-mondiste, un vieux tiers-mondiste. Mmh. C'est-à-dire que votre développement intellectuel, politique, scientifique, s'est développé sur les idées tiers-mondistes des années 50-60, qui avaient pour principe le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Quand on vous écoute, on se dit que les peuples que vous évoquez, d'Amérique latine, d'Afrique, etc., ne disposent pas d'eux-mêmes. C'est bel et bien, on luttait contre la colonisation dans les années d'après-guerre jusqu'au début des années 60. Du moins, ces peuples ont lutté contre l'emprise, l'emprise coloniale. Mais aujourd'hui, au fond, ils sont dans la même situation. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus leur souveraineté. Tout se passe comme s'ils ne l'avaient jamais eu, finalement.
Oui et non, c'est une réponse très suisse, je déteste ça. Oui et non. Mais c'est vrai que, je prends l'exemple de l'effroyable carnage maintenant, les 12 millions de personnes menacées de la destruction par la faim dans les 5 pays. Maintenant, nous parlons dans les 5 pays d'Afrique orientale, où l'argent manque. Chaque euro que quelqu'un donne à Terre des Hommes, Oxfam, Médecins du Monde ou Médecins Sans Frontières, crée de la vie. Je dis ça très rapidement. Vraiment, il faut donner maintenant, hein, pour que les gens aient une chance de survie. Mais quand il y a un endettement, par exemple, les 122 pays du tiers-monde ont eu une dette extérieure cumulée de 2100 milliards de dollars au 31 décembre 2010. Que, par exemple, un pays comme l'Éthiopie, qui est frappé maintenant effroyablement par la famine, qui s'annonçait, puisque la sécheresse est à sa cinquième année, l'Éthiopie a une dette extérieure qui l'empêche de constituer des réserves alimentaires ou qui l'empêche totalement d'investir dans son agriculture. Parce que tout ce qu'elle gagne par l'exportation du café, par exemple, ou des pots...
Ça va pour le service de la dette.
Ça va pour l'intérêt, pour l'amortissement des banques créancières. Mais là aussi, la mobilisation populaire, démocratique, peut forcer notre ministre des Finances du Fonds monétaire international, de voter pour le désendettement total des 50 pays les plus pauvres, c'est une catégorie comme ça, aux Nations Unies, au lieu de voter, comme jusqu'à maintenant, automatiquement, pour les grandes banques créancières de ces pays. Donc, la dette extérieure, elle prive de souveraineté les États, vous avez raison. Mais en même temps, vous avez la révolution arabe, qui est incroyable. La révolution tunisienne a commencé le 10 décembre. Eh bien, le 15 janvier de cette année, hein, c'était terminé. Le peuple s'est levé pacifiquement, cortège après cortège, enterrement après enterrement. Et chaque fois, le nombre a grandi. Sur la place Tahrir, le 25 janvier dernier, donc au cœur du Caire, ils étaient 1 million. Aujourd'hui, nous parlons en Syrie, où un effroyable régime massacre, tue, torture. Eh bien, tous les vendredis après la prière, des centaines de milliers de gens à l'attaque et à Homs vont dans la rue, les mains nues, réclamant leur liberté, savent qu'ils vont être, quelques-uns vont être tués. Ça aussi, c'est les peuples.
Jean Ziegler.
Ça aussi, c'est les peuples.
Jean Ziegler, tout ça nous amène... Vous avez parlé de la Tunisie, vous avez parlé de l'Égypte, de la Syrie. Oui. Et maintenant, on va parler de la Libye. Et on va parler de la Libye et de Jean Ziegler par rapport à la Libye. J'ai ici, sous les yeux, une dépêche de presse qui fait état de ce qui s'est passé cet été à Salzbourg, le festival de Salzbourg. Au festival de Salzbourg, le sociologue suisse Jean Ziegler brillera par son absence, dit cette dépêche, initialement invité pour prononcer le discours d'ouverture du festival. Il a été évincé par le gouvernement de la province de Salzbourg, la social-démocrate Gabi Burgstaller, pour ses liens, les vôtres, Jean Ziegler, supposés avec le régime du dirigeant libyen Mohamed Kadhafi et sa participation à une des fondations proches de la famille Kadhafi. Alors, expliquez-vous un peu sur ce lien avec Kadhafi, avec le prix des droits de l'homme Kadhafi, etc. Expliquez-vous là-dessus.
Bon, d'abord, j'approuve totalement et heureusement que les avions français et anglais sont intervenus dans la banlieue de Benghazi il y a 7 mois maintenant. Parce qu'autrement, ça aurait été un massacre effrayant. L'intervention occidentale, notamment française, est évidemment nécessaire. Il s'agissait de sauver des milliers de gens. Ça aurait été un carnage effroyable avec ce fou de Kadhafi. Bon, comment je l'ai connu? Mes livres sont traduits en arabe, comme beaucoup d'autres livres de beaucoup d'auteurs. Kadhafi a une ambition théorique. Il a écrit ce confus livre vert, etc., etc. Se croit un grand théoricien. Il lit des livres. Il était formé à Sandhurst, à l'Académie militaire anglaise à Sandhurst. Il a une formation. Et il invite des intellectuels pour discuter avec lui. Il y avait un temps où Kadhafi était quelqu'un à qui on pouvait adhérer, ou à qui on adhérait, parce qu'en 69, c'est loin, mais enfin, ça s'est quand même passé, il avait 27 ans, 12 officiers libres ont pris le pouvoir le 1er septembre 69. En 2 ans, on chassait Idriss, le roi, on mit fin à la tutelle anglaise, on nationalisait les champs pétroliers et gaziers dans les 3 ans qui ont suivi, et on dissout la plus grande base militaire américaine sur le continent, la Willow Space. Donc, à l'époque, les fils de Nasser, hein, comme Kadhafi se voyait, baptisé, ou Jaloud se voyait, etc., avaient l'adhésion de tous les jeunes, ou très jeunes de ma génération, en fonction de l'anti-impérialisme qui pratiquait. Bon. Ensuite est venu ce temps où il a épuré le Conseil de Révolution, etc., la dictature, et il m'a invité plusieurs fois. Mais c'est passionnant. C'était passionnant. Moi, j'étais comme tout intellectuel, pour vous, c'est certainement la même chose. Notre obsession, c'est l'incarnation. Donc, connaître les acteurs. Et c'est passionnant, même si c'est un bandit, Kadhafi, même si c'est un gangster, il est devenu fou à partir d'un certain moment. Un fou sanguinaire, mais là, j'étais déjà plus là, je le fréquentais plus. J'ai arrêté radicalement, j'ai plus répondu à partir de 96, les massacres de Abu Salim. Et je ne me suis jamais, à aucun moment, il n'y a aucun texte où je me suis solidarisé avec la dictature libyenne, à aucun moment. Tout ce qu'on dit, prix Kadhafi, fondation, etc., c'est faux. Mais les visites, les discussions dans les sous-sols d'Aziza, comme d'autres, comme il était avec d'autres intellectuels, ont eu lieu. Et j'ai beaucoup appris quand un chef d'État parle de la Palestine, des guerres en Afrique, du mouvement Touareg, etc. J'ai beaucoup appris, mais j'ai rompu radicalement 96, rien.
Oui. De toute façon, voilà. Alors,
peut-être on peut me dire pourquoi tu n'as pas vu qu'il était fou avant. C'est possible que omnubilé par la possibilité d'avoir des informations d'un homme de pouvoir, etc., on peut me reprocher une certaine, c'est vrai, certaine naïveté d'avoir serré la main de ce type-là trop longtemps.
Jean Ziegler, un dernier mot sur un bouquin de vous qui ressort en livre de poche, L'or de Maniema. Ça se passe au Katanga,
au Congo. Maniema, vous avez raison. Non, vous avez parfaitement raison. C'est l'Est du Congo. J'étais mon premier poste après Sciences Po à Paris. Et à Sciences Po, il y avait à la rue Saint-Guillaume des affiches où l'on eut recruté. Et j'étais là-bas durant la guerre civile. Et toute mon armure de marxiste a volé en éclats. Tous les Blancs n'étaient pas des salauds. Tous les Noirs n'étaient pas des victimes admirables. Il y avait Mobutu, déjà. L'assassin de Lumumba qui revenait du Kasaï avec les camions remplis de biens de pillage et les prisonniers ficelés qu'on battait devant les gens sur le boulevard Albert. Donc Mobutu, un horrible bonhomme. Et à côté de Kalina, où on vivait, là, où était le compound des Nations Unies, la clôture gardée par les Gurkhas, il y avait une léproserie avec des jésuites français. C'était des blancs admirables, mais incroyables, qui faisaient un travail qui risquait leur vie tous les jours, etc. Voilà. Et alors, j'ai écrit et ces images des massacres, etc., m'ont habité pendant très, très longtemps. Et finalement, j'ai écrit le roman, qui était, pour moi, la lutte contre mes propres hantises, contre les fantômes qui m'habitaient. Et depuis que j'ai écrit le roman, ça va mieux. Les souvenirs sont moins inquiétants.
Merci Jean Ziegler.
C'était un entretien de Daniel Mermet enregistré le 12 octobre dernier avec Jean Ziegler à l'occasion de la sortie de son livre « Destruction massive, géopolitique de la faim » paru ce mois-ci aux éditions du Seuil. Pour en savoir plus, deux adresses, www.franceinter.fr ou www.la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Gilles Gaillard et Yann Bouillot, réalisation Bertrand Chaumeton et Franck Adhérer, assistante Marina Trouillet. Quant à Grégory Salomonovitch, il a attend vos messages au 01 56 40 37 37.
MMA, c'est aussi le premier réseau social d'assurance pour les professionnels ?
Ça c'est sûr. Tenez, moi je viens de me faire cambrioler. On m'a cassé ma vitrine et volé toute ma nouvelle collection. Vous imaginez, difficile de faire face, il fallait trouver une solution.
Et alors ?
Zéro tracas. MMA l'a fait. Ils m'ont remboursé ma collection et les frais de remise en état de mon commerce.
MMA l'a fait ?
Bien sûr. C'est qui les clients pros ?
C'est nous ! Zéro tracas, zéro blabla, MMA !
Offre soumise à condition.
Il est 16h et vous êtes bien sur France Inter. Le journal vous est présenté par Dominique Delaroy.
À la veille d'un nouveau sommet européen sur la crise de la dette, l'Allemagne s'oppose à un passage du projet en train d'être concocté. Nous ne sommes pas d'accord, a déclaré Angela Merkel, sur le point qui presse la Banque Centrale Européenne, la BCE, de continuer à racheter des obligations de pays en difficulté comme l'Espagne ou l'Italie sur le marché secondaire. La chancelière a également dit ne pas souhaiter que les dirigeants politiques donnent des directives à la BCE. En France, les recapitalisations bancaires s'élèveront à une dizaine de milliards d'euros selon François Fillon, et elle ne devrait pas nécessiter de fonds publics, a poursuivi le Premier ministre. C'était lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. La CGT ne veut pas se faire instrumentaliser et Bernard Thibault, son secrétaire général, annonce qu'il n'ira pas déjeuner le 2 novembre à l'Élysée avec toute une délégation de responsables syndicaux internationaux conviés par Nicolas Sarkozy à la veille du sommet du G20 à Cannes. Bernard Thibault trouve bien louche l'insistance mise par les services de l'Élysée à la présence des premiers dirigeants syndicaux français à ce déjeuner. L'OTAN réagit avec prudence à la demande par un membre du CNT d'une prolongation de sa mission en Libye. Le ministre du Pétrole et des Finances a demandé à l'OTAN de rester au moins un mois de plus alors que l'OTAN avait annoncé son retrait le 31 octobre. Le Conseil de l'Atlantique Nord qui réunit les ambassadeurs des 28 pays de l'OTAN doit se réunir demain à Bruxelles pour officialiser cette décision. Mais avant, l'OTAN va consulter les nouvelles autorités libyennes. Arnaud Montebourg, arrivé troisième aux récentes primaire socialiste, va construire un mouvement politique. C'est ce qu'il déclare dans un entretien publié par le journal de Saône-et-Loire. Le député, président du conseil général du département, explique qu'il a décidé de bâtir un think tank avec l'appui d'intellectuels comme Emmanuel Todd ou Michel Onfray. Arnaud Montebourg, qui a plein de projets, souhaite aussi créer en Saône-et-Loire une école de formation politique des cadres de la Nouvelle France, ouverte aux militants du PS et des autres partis de gauche. Tony Vérel, l'ancien international de foot, a été déféré au palais de justice de Nancy cet après-midi. Il serait impliqué dans une fusillade à la sortie d'une discothèque de la banlieue de la ville dans la nuit de samedi à dimanche. Trois videurs ont été blessés. Tony Vérel avait été placé en garde à vue dimanche matin avec quatre autres personnes, dont l'un de ses frères. Ils pourraient tous être mis en examen pour tentative de meurtre avant un éventuel placement en détention provisoire. Et puis un répit peut-être pour ceux qui veulent acheter à Paris. Selon la Chambre des notaires d'Île-de-France, la hausse des prix des appartements anciens va prochainement s'interrompre en raison d'une baisse du nombre de transactions. Cet été, on avait battu des records avec une moyenne de 8 350 euros le mètre carré dans la capitale.
Dimanche, à partir de 21h, France Inter sera à la Fiesta des Suds de Marseille pour vous faire vivre en direct le concert de clôture Honest Jeune Shop Up, une création inédite de Damon Albarn.
Honest John's Shop Up, le tout dernier projet de Damon Albarn, chanteur de Blur et de Gorillaz, avec sur la scène de la 20e Fiesta des Suds,
Flea des Red Hot Chili Peppers,
Tony Allen,
Shakti Diansek,
Fatou Matadiawara,
Chagahan Electro
et bien d'autres.
Soirée de clôture de la 20e Fiesta des Suds en direct de Marseille, avec sur scène Damon Albarn et ses invités, à suivre en exclusivité sur France Inter, dimanche, à partir de 21h. France Inter. La différence.
Il est tout juste 16h04, on retrouve Frédéric L'Odéon pour le Carrefour de L'Odéon.
Bonjour Dominique. Carrefour de L'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Je vous propose de feuilleter aujourd'hui Diapason, notre partenaire, celui du mois de novembre qui est déjà sorti, et il y a plein de rubriques passionnantes comme d'habitude. Il y a par exemple une visite au musée des instruments de Bruxelles qui est tout à fait étonnante, avec des photos, des instruments bizarres qu'on ne voit presque jamais, et puis des explications évidemment à ces instruments. Il y a un beau portrait du pianiste Aldo Ciccolini qui ne vit que pour la musique, il le dit. Évidemment des études concernant les amplis, les amplificateurs et leurs utilisations. On parle du Requiem en général, 36 disques pour l'été. Donc ce moment de repos éternel, Requiem allemand de Brahms, c'est l'œuvre du mois qui est étudiée. Et puis comme toujours, les disques qui reçoivent un diapason d'or, renforcés, certains d'entre eux, par le petit sigle France Inter. Eh bien on a oublié de mettre celui que j'avais demandé, et je maintiens pourtant que bien sûr ce disque est formidable, donc il a un diapason d'or France Inter moral. C'est le disque avec Laurent Corsia, violoniste quelquefois un petit peu distant, enfin qu'on ne trouve pas souvent, qui ne donne pas beaucoup d'interviews, qui est considéré comme un peu sauvage, même mauvais garçon, dit le magazine Diapason. Là, vraiment, une réussite absolument incroyable, avec Jean-Jacques Kantorov qui dirige, peut-être aussi une des explications, parce que quand on joue sous la direction de Jean-Jacques Kantorov, qui est lui-même un violoniste fabuleux, peut-être qu'on a envie de se dépasser particulièrement. C'est une réussite absolue, saluée par Jean-Michel Molcou, grand spécialiste du violon, qui écrit dans Diapason, chirurgien en dehors de ça, et aussi bon dans les deux domaines. Et voilà, il est à genoux. Nous, presque, il cite Heifetz, il compare avec Milstein, enfin les plus grandes versions qui soient. Alors allons-y carrément, et voici un extrait de ce fameux concerto de Tchaïkovski qui a été quelquefois décrié. On a même dit que c'était de la musique qui puait. Oui, c'est un certain critique d'autrefois qui avait dit ça. Eh ben, je sais pas, c'est bizarre parce qu'on le joue tout le temps, tout le monde se bat pour l'enregistrer, donc ça prouve qu'il a quand même quelques belles qualités. Un peu de l'allegro vivacissimo de ce concerto de Tchaïkovski. Thank you.